Retour à Marx et à la baisse tendancielle du taux de profit. Au terme de cette quête consacrée à la dynamique historique du rapport capital-revenu et du partage capital-travail, il n'est pas inutile de préciser la relation entre les conclusions que nous avons obtenues et les thèses marxistes. Pour Marx, le mécanisme central par lequel la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs correspond à ce que nous avons appelé dans l'introduction le principe d'accumulation infinie. Les capitalistes accumulent des quantités de capital de plus en plus importantes, ce qui finit par conduire à une baisse inexorable et tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire le taux de rendement du capital, et par causer leurs propres pertes. Marx n'utilise pas de modèle mathématique, et sa prose n'est pas toujours limpide, si bien qu'il est difficile de savoir avec certitude ce qu'il avait en tête. Mais une façon logiquement cohérente d'interpréter son propos est de considérer la loi dynamique bêta égale S sur G dans le cas particulier où le taux de croissance G est nul, ou tout du moins très proche de zéro. Rappelons en effet que G mesure le taux de croissance structurelle à long terme, c'est-à-dire la somme du taux de croissance de la productivité et de la population. Or, dans l'esprit de Marx, comme d'ailleurs de tous les économistes du 19e et du début du 20e siècle, et dans une large mesure jusqu'aux travaux de Solow dans les années 1950-1960, la notion même de croissance structurelle, tirée par une croissance permanente et durable de la productivité, n'était pas clairement formulée et identifiée. À cette époque, l'hypothèse implicite est que la croissance de la production, notamment manufacturière, s'explique avant tout par l'accumulation de capital industriel. Autrement dit, on produit plus uniquement parce que chaque travailleur dispose de plus de machines et d'équipements, et non parce que la productivité en tant que telle, pour une quantité donnée de travail et de capital, a augmenté. On sait aujourd'hui que seule la croissance de la productivité permet une croissance structurelle à long terme. Mais, compte tenu du manque de recul historique et de données disponibles, cela n'a rien d'évident à l'époque de Marx. Dans le cas où il n'existe aucune croissance structurelle et où le taux G est rigoureusement nul, on aboutit à une contradiction logique très proche de celle que décrit Marx. À partir du moment où le taux d'épargne net S est positif, c'est-à-dire que les capitalistes s'acharnent à accumuler chaque année davantage de capital, par volonté de puissance et de perpétuation, ou bien simplement parce que leur niveau de vie est déjà suffisamment élevé, le rapport capital-revenu augmente indéfiniment. Plus généralement, si le taux G est faible et s'approche de zéro, le rapport capital-revenu de long terme, bêta égale S sur G, tend vers l'infini. Et avec un rapport capital-revenu bêta infiniment élevé, le rendement du capital R doit nécessairement se réduire de plus en plus, et devenir infiniment proche de zéro, faute de quoi la part du capital alpha égale R multiplié par bêta finira par dévorer la totalité du revenu national. La contradiction dynamique pointée par Marx correspond donc à une vraie difficulté, dont la seule issue logique est la croissance structurelle, qui seule permet d'équilibrer, dans une certaine mesure, le processus d'accumulation du capital. C'est la croissance permanente de la productivité et de la population qui permet d'équilibrer l'addition permanente de nouvelles unités de capital, comme l'exprime la loi bêta égale S sur G. Faute de quoi, les capitalistes creusent effectivement leur propre tombe. Soit ils s'entre-déchirent, dans une tentative désespérée pour lutter contre la baisse tendancielle du taux de rendement, par exemple en se faisant la guerre pour obtenir les meilleurs investissements coloniaux, à l'image de la crise marocaine entre la France et l'Allemagne en 1905 et 1911, soit ils parviennent à imposer au travail une part de plus en plus faible dans le revenu national, ce qui finira par conduire à une révolution prolétarienne et une expropriation générale. Dans tous les cas, le capitalisme est miné par ses contradictions internes. L'idée selon laquelle Marx avait effectivement en tête un modèle de ce type, c'est-à-dire un modèle fondé sur l'accumulation infinie du capital, est confirmée par le fait qu'il utilise à plusieurs reprises des exemples de comptes d'entreprises industrielles caractérisées par de très fortes intensités capitalistiques. Dans le premier tome du Capital, il donne notamment l'exemple des comptes d'une fabrique textile dont il précise qu'ils lui ont été transmis par son propriétaire, qui semblent indiquer un rapport extrêmement élevé entre la valeur totale du capital fixe et variable utilisé dans le processus de production et la valeur de la production annuelle, apparemment supérieure à 10. Ce type de rapport capital-revenu a effectivement quelque chose d'assez effrayant. Il suffit que le taux de rendement du capital soit de 5% pour que la part des profits dépasse la moitié de la production. Il est naturel que Marx, et avec lui beaucoup d'autres observateurs inquiets de l'époque, se soient demandé jusqu'où tout cela pouvait mener, d'autant plus que les salaires stagnaient depuis le début du XIXe siècle, et vers quel type d'équilibre socio-économique à long terme ce développement industriel hyper-intensif en capital allait nous conduire. Marx est également un lecteur assidu des rapports parlementaires britanniques des années 1820-1860, qu'il utilise pour documenter la misère des salaires ouvriers, les accidents du travail, les déplorables conditions sanitaires et plus généralement la rapacité des détenteurs du capital industriel. Il mobilise aussi les statistiques issues de l'impôt cédulaire sur les bénéfices, qui montre un très rapide accroissement des profits industriels dans le Royaume-Uni des années 1840-1850. Marx tente même d'utiliser, de façon il est vrai assez impressionniste, quelques statistiques successorales destinées à montrer la très forte progression des plus grandes fortunes britanniques depuis l'époque des guerres napoléoniennes. Le problème est qu'en dépit de toutes ces intuitions importantes, Marx conserve le plus souvent une approche relativement anecdotique et peu systématique des statistiques disponibles. En particulier, il ne cherche pas à savoir si la très forte intensité capitalistique qu'il croit déceler dans les comptes de quelques fabriques est représentative de l'économie britannique dans son ensemble, ni même de tel ou tel secteur particulier, ce qu'il aurait pu tenter de faire en rassemblant ne serait-ce que quelques dizaines de comptes d'entreprises. Le plus étonnant, s'agissant d'un livre consacré pour une large part à la question de l'accumulation du capital, et que Marx ne fait aucune référence aux tentatives d'estimation du stock de capital national qui se sont multipliées au Royaume-Uni depuis le début du XVIIIe siècle et qui ont connu de nombreux développements depuis le début du XIXe, des travaux de Colcombe dans les années 1800-1810 à ceux de Giffen dans les années 1870-1880. Marx semble passer totalement à côté de la comptabilité nationale qui se développe autour de lui, ce qui est d'autant plus regrettable que cela lui aurait permis de confirmer dans une certaine mesure ses intuitions sur l'énorme accumulation de capital privé qui caractérise l'époque, et surtout de préciser son modèle explicatif. Au-delà des deux Cambridge. Il faut toutefois souligner que les comptes nationaux et les divers matériaux statistiques disponibles à la fin du XIXe et au début du XXe siècle étaient tout à fait insuffisants pour étudier correctement la dynamique du rapport capital-revenu. En particulier, les estimations du stock de capital étaient beaucoup plus nombreuses que celles du revenu national et de la production intérieure. Puis, une situation inverse s'est produite au milieu du XXe siècle, à la suite des chocs des années 1914-1945. Cela explique sans doute en partie pourquoi la question de l'accumulation du capital et d'une possible issue équilibrée à ce processus dynamique a pendant longtemps continué de susciter de nombreuses controverses et souvent beaucoup de confusion, comme en témoigne la fameuse controverse dite des deux Cambridge, qui a eu lieu dans les années 1950-1960. Rappelons-en rapidement les éléments. Quand la formule bêta égale S sur G a été introduite explicitement pour la première fois par les économistes Harrod et Domar à la fin des années 1930 et pendant les années 1940, il était habituel de l'écrire et de la lire dans le sens inverse, à savoir G égale S sur bêta. En particulier, Harrod, en 1939, considère que le rapport capital-revenu bêta est rigoureusement fixe et imposé par la technologie disponible, comme dans le cas d'une fonction de production à coefficient fixe, avec aucune substitution possible entre travail et capital, si bien que le taux de croissance est entièrement déterminé par le taux d'épargne. Si le taux d'épargne est de 10% et que la technologie impose un rapport capital-revenu égal à 5, il faut exactement 5 unités de capital pour produire une unité de production, ni plus ni moins, alors le taux de croissance de la capacité productive de l'économie est de 2% par an. mais comme le taux de croissance se doit par ailleurs d'être égal au taux de croissance de la population et de la productivité, notion encore mal définie à l'époque, alors on aboutit à la conclusion que la croissance est un processus intrinsèquement instable au fil du rasoir. Il y a toujours soit trop, soit pas assez de capital, générant par là même des capacités excédentaires et des bulles spéculatives, ou bien du chômage, voire les deux à la fois, suivant les secteurs et les années. Tout n'est pas faux dans l'intuition de Harrod, qui écrit en pleine crise des années 1930 et qui de toute évidence est profondément marqué par la très forte instabilité macroéconomique de l'époque. De fait, le mécanisme qu'il décrit contribue sans aucun doute à expliquer pourquoi le processus de croissance est toujours profondément volatile. L'ajustement au niveau de tout un pays, entre les décisions d'épargne et d'investissement, qui sont généralement prises par des personnes différentes et pour des raisons différentes, est structurellement complexe et chaotique, d'autant plus qu'il est souvent difficile de faire varier à court terme l'intensité capitalistique et l'organisation de la production. Il n'en reste pas moins que le rapport capital-revenu est relativement flexible à long terme, comme le démontrent sans ambiguïté les très fortes variations historiques que nous avons analysées et qui semblent même indiquer une élasticité de substitution entre travail et capital supérieure à 1 sur longue période. Dès 1948, Domar développe une vision plus optimiste et plus flexible que Harrod de la loi G égale S sur bêta, en insistant sur le fait que le taux d'épargne et le rapport capital-revenu peuvent, dans une certaine mesure, s'ajuster. Mais c'est surtout en 1956 que Solow introduit la fonction de production à facteur substituable qui permet de renverser la formule et de l'écrire bêta égale S sur G. À long terme, le rapport capital-revenu s'ajuste au taux d'épargne et au taux de croissance structurelle de l'économie, et non l'inverse. Les controverses continuent toutefois dans les années 1950-1960 entre des économistes principalement basés à Cambridge, au Massachusetts, en particulier Solow et Samuelson, qui défendent la fonction de production à facteur substituable, et des économistes travaillant notamment à Cambridge, au Royaume-Uni, par exemple Robinson, Caldor et Pasinetti, qui, non sans parfois une certaine confusion, voient dans le modèle de Solow l'affirmation que la croissance est toujours parfaitement équilibrée et la négation de l'importance des fluctuations keynésiennes de court terme. Ce n'est qu'à partir des années 1970-1980 que le modèle dit néoclassique de croissance de Solow s'impose définitivement. Si l'on relit ces échanges avec le recul d'aujourd'hui, il apparaît clairement que cette controverse, qui avait par moments une dimension postcoloniale assez marquée, les économistes américains cherchant à s'émanciper de la tutelle historique des économistes britanniques, qui avaient régné en maître sur la profession depuis Adam Smith, et les britanniques tentant de défendre la mémoire supposée trahie de Lord Keynes, a davantage contribué à obscurcir la réflexion économique qu'à l'éclaircir. Rien ne justifiait vraiment les suspicions britanniques. Solow, comme Samuelson, était tout à fait convaincu de l'instabilité à court terme du processus de croissance et de la nécessité de poursuivre des politiques keynésiennes de stabilisation macroéconomique et voyait la loi bêta égale S sur G uniquement comme une loi de long terme. Les économistes américains, dont certains étaient nés en Europe, comme Modigliani, avaient cependant parfois tendance à exagérer la portée de leurs découvertes au sujet du sentier de croissance équilibrée. La loi bêta égale S sur G décrit certes un chemin de croissance où toutes les grandeurs macroéconomiques, stock de capital et flux de revenus et de production, progressent au même rythme à long terme. Mais au-delà de la question de la volatilité à court terme, cette croissance équilibrée ne garantit aucune harmonie particulière au niveau de la répartition des richesses, et en particulier n'implique en aucune façon la disparition, ni même la diminution, de l'inégalité de la propriété du capital. Et, contrairement à une idée répandue jusque tout récemment, la loi bêta égale S sur G n'empêche nullement de très fortes variations dans le temps et entre pays du rapport capital-revenu, bien au contraire. Il me semble que la virulence et le caractère parfois un peu stérile de cette controverse des deux Cambridge s'expliquent en partie par le fait que les uns et les autres ne disposaient pas de données historiques satisfaisantes permettant de préciser les termes du débat. il est frappant de voir à quel point les participants à cette controverse ont peu recours aux estimations du capital national faites avant la Première Guerre mondiale, qui sans doute leur semblent trop incomparables aux réalités des années 1950-1960. Les guerres ont créé une discontinuité tellement forte dans l'analyse conceptuelle et le cadre statistique qu'elles semblent empêcher pour un temps d'avoir une perspective de long terme sur cette question, notamment du point de vue européen. Le retour du capital en régime de croissance faible. À dire vrai, ce n'est que depuis la fin du XXe et le tout début du XXIe siècle que nous disposons des données statistiques et surtout du recul historique indispensable permettant d'analyser correctement la dynamique sur longue période du rapport capital-revenu et du partage capital-travail. Concrètement, les données que nous avons rassemblées et le recul historique dont nous avons la chance de disposer, recul toujours insuffisant, certes, mais par définition supérieur à celui dont bénéficiaient les auteurs précédents, nous conduisent aux conclusions suivantes. Tout d'abord, le retour à un régime historique de croissance faible, et en particulier de croissance démographique nulle, voire négative, conduit logiquement au retour du capital. Cette tendance à la reconstitution de stocks de capital très élevés dans des sociétés de faible croissance est exprimée par la loi bêta égale S sur G et peut se résumer ainsi « Dans des sociétés stagnantes, les patrimoines issus du passé prennent naturellement une importance considérable ». En Europe, le rapport capital-revenu a déjà retrouvé en ce début du XXIe siècle des niveaux de l'ordre de 5-6 années de revenu national à peine inférieurs à ceux observés au XVIIIe et XIXe siècle et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Au niveau mondial, il est tout à fait possible que le rapport capital-revenu atteigne ou même dépasse ce type de niveau au cours du XXIe siècle. Si le taux d'épargne se maintient autour de 10%, et si le taux de croissance se stabilise autour de 1,5% à très long terme, compte tenu de la stagnation démographique et du ralentissement du progrès économique, alors le stock mondial de capital atteindra logiquement l'équivalent de 6-7 années de revenus. Et si la croissance s'abaisse à 1%, alors le stock de capital pourrait atteindre l'équivalent de 10 années de revenus. Ensuite, pour ce qui concerne la part des revenus du capital dans le revenu national et mondial, part qui est donnée par la loi alpha égale R multiplié par bêta, l'expérience historique suggère que la hausse prévisible du rapport capital-revenu ne va pas nécessairement conduire à une baisse sensible du rendement du capital. Il existe en effet de multiples usages du capital à très long terme, ce que l'on peut résumer en notant que l'élasticité de substitution entre capital et travail est sans doute supérieure à 1 sur longue période. Le plus probable est que la baisse du revenu sera plus faible que la hausse du rapport capital-revenu, si bien que la part du capital augmentera. Avec un rapport capital-revenu de l'ordre de 7-8 années et un taux de rendement mondial du capital d'environ 4-5%, alors la part du capital pourrait se situer autour de 30-40% du revenu mondial, soit à un niveau voisin de celui observé au XVIIIe et XIXe siècle, et pourrait même le dépasser. Comme nous l'avons noté plus haut, il est également possible que les transformations technologiques à très long terme favorisent légèrement le travail humain par rapport au capital, provoquant par là même une baisse du rendement et de la part du capital. Mais cet éventuel effet à long terme semble d'une ampleur limitée et il est possible qu'il soit plus que compensé par d'autres forces allant en sens inverse, comme la sophistication croissante des systèmes d'intermédiation financière, ainsi que la concurrence internationale pour attirer les capitaux. Les caprices de la technologie. Récapitulons. La principale leçon de cette deuxième partie est sans doute qu'il n'existe aucune force naturelle réduisant nécessairement l'importance du capital et des revenus issus de la propriété du capital au cours de l'histoire. Dans les décennies de l'après-guerre, on s'est pris à penser que le triomphe du capital humain sur le capital au sens traditionnel, c'est-à-dire sur le capital terrien, immobilier et financier, était un processus naturel et irréversible, dû peut-être à la technologie et à des forces purement économiques. À dire vrai, certains se disaient déjà que les forces proprement politiques étaient centrales. Nous confirmons pleinement ce point de vue. La marche en avant vers la rationalité économique et technologique n'implique pas nécessairement une marche en avant vers la rationalité démocratique et méritocratique. La raison principale en est simple. La technologie, de même que le marché, ne connaît ni limite ni morale. L'évolution technologique a certes entraîné des besoins de plus en plus importants en qualifications et en compétences humaines. Mais elle a également augmenté les besoins en bâtiments, en logements d'habitation, en bureaux, en équipements de toute nature, en brevets. Et pour finir, la valeur totale de tous ces éléments de capital non humain, immobilier, professionnel, industriel, financier, a progressé presque aussi vite que la production et le revenu national sur longue période. De même, la masse des revenus rémunérant ces différentes formes de capital a progressé presque aussi vite que la masse des revenus du travail. Si l'on souhaite véritablement fonder un ordre social plus juste et rationnel, fondé sur l'utilité commune, il n'est pas suffisant de s'en remettre aux caprices de la technologie. Pour résumer, la croissance moderne, qui est fondée sur la croissance de la productivité et la diffusion des connaissances, a permis d'éviter l'apocalypse marxiste et d'équilibrer le processus d'accumulation du capital. Mais elle n'a pas modifié les structures profondes du capital, ou tout du moins, elle n'a pas véritablement réduit son importance macroéconomique relativement au travail. Il nous faut maintenant étudier s'il en va de même pour l'inégalité de la répartition des revenus et des patrimoines. Dans quelle mesure les structures des inégalités face au travail et face au capital se sont-elles véritablement transformées depuis le XIXe siècle ?